nous allons lire aussi ce matin le texte que nous avons un peu vu vendredi à la soirée. C'est Hébreux chapitre 1 et les trois premiers versets. Hébreux 1, versets 1 à 3. Nous lisons Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors aujourd'hui, nous sommes donc dimanche, et en général, en France, le dimanche, beaucoup de personnes préfèrent sortir, faire un tour à un parc, ou alors aller à la chasse, ou faire beaucoup de choses. Et souvent aussi le dimanche, on va aussi au musée. Je ne sais pas si vous êtes allé au musée récemment. Moi, la dernière fois que j'y étais, c'était avec ma fiancée l'année dernière. Et depuis, je ne suis plus à retourner au musée. Parce que je vais rarement au musée, puisque j'ai dépassé l'âge pour aller gratuitement au musée. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais j'aime beaucoup aller au musée, surtout parce que je ne suis pas quelqu'un d'artistique, mais j'aime beaucoup voir tout ce qui est paysage, tout ce qui est vraiment représente la création de Dieu, que ce soit au musée, que ce soit même à l'extérieur, regarder en fait la création de Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Et on peut se poser la question, j'aimerais même vous poser la question, c'était quand la dernière fois que vous êtes émerveillé devant un tableau? Quand était-ce la dernière fois que vous êtes émerveillé devant le paysage de Dieu, devant la merveille de Dieu? Des fois, nous sommes peut-être trop habitués à voir ce qu'il y a autour de nous, trop habitués à voir des tableaux, trop habitués à voir beaucoup de choses. Et ici, on est devant un texte qu'on peut imaginer en fait comme un tableau où l'auteur veut nous montrer la splendeur et la grandeur de Jésus-Christ, qui est ce sauveur qui nous a sauvés et qui est le sauveur de l'humanité. Qui est cet homme? Qui est ce Jésus-Christ? Et donc cet auteur dont on ne sait pas qui il est, jusqu'à aujourd'hui, les spécialistes se posent des questions, qui est cet auteur aux Hébreux? Il y a beaucoup de spéculations, l'apôtre Paul ou Barnabas, ou qui que ce soit. La question n'est pas là, la question de savoir pourquoi il a écrit cette lettre, pourquoi il a vraiment voulu écrire ces mots à cette communauté qui visiblement comprenait en fait le grec et parlait un peu, comprenait aussi l'arrière-plan judaïque. Eh bien, il a écrit cette lettre parce que c'est une période où il y a beaucoup de persécutions. Beaucoup de persécutions, beaucoup de tentations à retourner au judaïsme. Le temple est toujours là, les sacrifices se font toujours, et il y a cette tentation de se dire, oui, peut-être que ce que nous croyons n'est pas certain, peut-être qu'il faut retourner au judaïsme, peut-être qu'il faut retourner au temple, retourner à tous ces sacrifices. Et on voit le grand temple d'Hérode, on voit le grand prêtre qui rentre dans le temple, on voit vraiment toute cette histoire, la loi de Moïse, et c'est tentant d'y retourner. Et l'auteur donc a un objectif, c'est de dire que non, il n'y a aucune raison de retourner au judaïsme. Vous avez tellement plus avec Jésus-Christ, et je vais vous le prouver. Et il essaie d'emmener vraiment son auditoire dans ce musée et de voir ce tableau sur la supériorité de Jésus-Christ. Cette supériorité qui est totale et qui commence avec la révélation, avec ces trois premiers versets. Ce que Jésus a révélé par rapport au Père est infiniment supérieur par rapport à ce que les prophètes et ceux qui ont dit autrefois ont amené. Et c'est pour ça donc qu'il amène ce sujet de la révélation de Dieu en Christ qui est supérieur. Il l'amène sous trois angles. Il montre que la révélation de Dieu en Jésus est nouvelle, elle est unique et elle est définitive. Cette révélation, donc, elle est nouvelle, unique et définitive. Et c'est une question qui nous pose aussi le Christ en qui nous croyons. Comment nous l'imaginons? Est-ce que c'est vraiment le Christ glorieux, le Christ unique qui mérite toute l'adoration? Est-ce que ce Christ-là, sa révélation nous suffit réellement? C'est la question qu'il nous pose ce matin et que nous voulons essayer de voir à travers ces trois versets de l'Épître aux Hébreux. Alors plongeons-nous dans le texte, regardons ces trois choses, cette nouveauté, le fait que ce soit unique et le fait que ce soit définitive, en regardant encore une fois le premier verset. Donc le premier verset qui dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Dieu nous a parlé par le Fils. Mais autrefois, Dieu a parlé aussi. Et comme nous l'avons vu, ce que Dieu parlait autrefois, c'était surtout pour préparer la venue du Messie. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament, tous les messages étaient vraiment pour préparer cette venue de Jésus-Christ sur la terre. On voit le message qui a commencé en Genèse 3:15, cette promesse que la descendance allait écraser la tête du serpent. Et tous les prophètes sont venus pour annoncer que oui, un Messie arrive, un Messie arrive, un Messie arrive. Mais ce n'était pas vraiment un message clair. C'était vraiment, comme c'est marqué ici, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Beaucoup de prophètes sont venus. Il n'y a pas aussi les prophètes, il y avait aussi toutes ces choses qui se sont manifestées. Il y avait le tabernacle, le temple, les fêtes juives, tout ça pour préparer en fait la venue du Messie. Mais quand on est juif à l'époque, on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi il y a le temple, pourquoi il y a le sacrifice, pourquoi il y a toutes ces choses? On ne comprend pas, c'est pas clair, c'est pas vraiment précis, et pourtant c'est très important car c'est Dieu qui l'a préparé. C'est une révélation donc qui était vraiment progressive. Donc au fur et à mesure où on avançait, ça commençait à devenir de plus en plus clair. D'abord il y avait les prophètes, ensuite on a vu les rois, on a vu un roi comme un roi messianique avec David. Mais là encore, il manquait quelque chose. Puis on a eu beaucoup de choses. Et puis on voit le temple qui est majestueux, qui est grand. Et on voit que vers quoi ça tend tout cela, vers quoi ça nous mène. Et cette révélation donc, est donc très importante. Il ne faut pas se dire que c'était passé, ça ne doit pas être considéré. Ça doit être considéré. Parce que c'était la parole de Dieu. Quand les prophètes venaient, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Et quand Dieu indiqué à Moïse de faire le tabernacle, c'était d'après le modèle divin. Donc c'était des choses importantes aux yeux de Dieu. Mais ça, c'était autrefois. C'était à plusieurs reprises, à plusieurs manières, c'était fragmenté, c'était un message pas évident à saisir. C'était comme si on était devant un tableau, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'arrive souvent, vous savez, je viens devant un tableau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Et là, c'était pareil. Et on arrive en fait au verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de nouveau. Et on se souvient de la première prédication de Jésus. Quand Jésus arrive quand Jésus arrive après que Jean-Baptiste et il commence à prêcher, les premiers mots de Jésus, c'est quoi? C'est les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est la première prédication de Jésus pour montrer que ça y est, avec ma venue, l'accomplissement est arrivé. Toutes les prophéties qui montraient que le Messie arrive trouvent enfin leur destination en Jésus. Donc les jours qui sont derniers, ce ne sont pas les jours qu'on doit encore attendre. Non, c'est les jours accomplis avec Jésus-Christ. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est arrivé. Jésus, il recentre tout le message de l'Ancien Testament en lui. On se souvient aussi lorsqu'il est ressuscité et qu'il marche avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces deux disciples qui ne comprenaient pas, ils disaient, mais voilà, on pensait que ce Jésus, c'était vraiment lui qui allait rétablir le royaume d'Israël, etc., etc. Et Jésus leur dit, vous êtes si lents à comprendre, il fallait que le Christ soit arrêté. Qu'il soit jugé, condamné, qu'il meure et qu'il revienne à la vie. Et après, il y a ce commentaire de Luc qui dit, il a commencé par la loi et les prophètes et leur a montré tout ce qui le concernait, de Moïse jusqu'à Malachie, pour montrer que vraiment toute la loi, tous les prophètes pointaient vers le Messie. Et quand Jésus vient, il dit, voyez, voyez, le temps est accompli avec moi. C'est moi qui suis la fin de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. C'est ce que l'auteur veut dire ici en disant que Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Ce n'est plus le mode comme avant où Dieu envoyait un prophète et on ne comprenait pas. Jésus vient et il donne vraiment une révélation supérieure. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est lui, il vient du sein du Père directement. Et donc il est l'interprète suprême de Dieu le Père. Sa révélation est claire, elle est précise, elle est définie. Et il apporte des nouveautés. Il parle en parabole. Il renforce la loi au sermon sur la montagne. Quand il dit, vous avez entendu ça, mais moi je vous dis. Il n'y a aucun prophète qui parlait comme ça. Jésus dit, moi je vous dis, pour remettre vraiment la loi à sa juste place. Jésus annonce aussi que le salut n'est plus à attendre, le salut est déjà là. Croyez en moi. Comment un prophète peut dire croyez en moi? C'est pour montrer qu'il est la fin de toutes choses. Jésus, c'est vraiment cette révélation claire, bien définie, bien précise. Enfin, on comprend vers quoi toutes ces prophéties pointaient quand Jésus se manifeste. Pour une illustration, ça pourrait aussi, on pourrait penser peut-être aux moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Avant, c'était compliqué pour avoir un message. Il fallait, on est passé du message qu'on donnait à un petit papier à la boîte mail aujourd'hui. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, beaucoup plus défini. Ou alors le téléphone portable. On se souvient qu'avant, pour appeler quelqu'un, c'était compliqué. Il fallait prendre les anciens téléphones. Là, on devait tourner les numéros et tout ça. C'était vraiment compliqué. Moi, j'ai encore un téléphone comme ça chez mes parents. C'est vraiment un vieux téléphone où on devait tourner les numéros, tout ça. Et c'était pas évident. Et puis aussi les forfaits téléphoniques et tout ça. Et puis on est arrivé à une période où aujourd'hui, nous avons un moyen de communication qui est, on va dire, défini. Et on est arrivé au sommet de la technologie avec ces téléphones intelligents qui font téléphone et internet et les boîtes mail et tout ça. Nous arrivons vraiment à quelque chose de supérieur, quelque chose de mieux, de défini. On pointait vers ça, mais on avait encore du mal. Et finalement, on arrive avec cette technologie. Et avec Jésus, c'est plus ou moins la même chose. Je dis bien plus ou moins. On ne peut pas vraiment comparer, mais plus ou moins. C'est-à-dire qu'avant, Dieu parlait à travers les prophètes, à travers les objets, les rites et tout ça, c'était pas vraiment clair. Et quand Jésus vient, il y a la nouveauté, il y a la clarté. Et avec Jésus, nous avons enfin la révélation supérieure, parfaite. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici, l'auteur aux Hébreux. Autrefois, c'était très très bien, il faut le considérer. Mais aujourd'hui, avec Jésus, c'est bien supérieur, c'est meilleur, c'est nouveau. Jésus apporte de la clarté, il est l'accomplissement total des prophéties de l'Ancien Testament. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Donc là, nous voyons vraiment la nouveauté dans la révélation de Dieu avec Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir pourquoi elle est unique. Pourquoi la révélation de Dieu avec Jésus est unique. Relisons encore ce verset 2. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Et ensuite, il y a une liste de qualités. Il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Il est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a accompli la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté de Dieu dans les lieux très hauts. Pourquoi la révélation de Dieu avec Jésus, elle est unique? Elle est unique à cause de qui est cet interprète, qui est celui qui révèle le Père? C'est simplement Dieu le Fils. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, à côté de Dieu, et la parole était Dieu. Et celui qui nous a révélé le Père, c'est Dieu le Fils unique. Ce n'est pas un simple prophète qu'on veut nous faire croire dans d'autres religions. Ce n'est pas juste un simple philosophe, un simple homme qu'on veut nous le faire croire que par d'autres personnes. C'est le Fils unique de Dieu. C'est une personne divine. C'est le Fils. Et là, on voit toutes ces qualités. Et les chrétiens de l'époque à qui s'adresse l'auteur doivent se dire, mais qui était vraiment ce Jésus? C'est vrai que nous croyons en Jésus, oui. Mais pourquoi on ne devrait pas retourner au temple? Pourquoi on ne devrait pas retourner au judaïsme? Pourquoi on ne devrait pas retourner à tout ça? Et l'auteur leur dit, non, 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 non. observez, imaginez ce tableau, réalisez qui est ce sauveur, à qui vous avez mis, en qui vous avez mis votre confiance. Et c'est aussi cette question qu'on peut se poser aujourd'hui. Peut-être ça fait des années qu'on croit, ça fait des années qu'on est dans le christianisme, mais on ne sait pas vraiment qui est réellement ce Jésus en qui nous avons mis notre confiance. Et l'auteur veut remettre les choses au clair et dire à son auditoire, attendez, mais observez, observez le Sauveur en qui vous croyez, regardez qui il est avec toutes ses qualités. Ce n'est pas juste un simple homme, ce n'est pas juste un simple médiateur de Dieu, c'est Dieu en personne. En quoi Jésus est un envoyé très spécial de Dieu? Souvent, c'est des questions qu'on nous pose, des collègues de travail, des amis, vous croyez en Jésus, mais qu'est-ce qu'il a de spécial ce Jésus? Nous avons la réponse ici. Toutes ces qualités qui sont magnifiques, on pourrait passer du temps pour essayer de décortiquer chaque qualité, mais en fait, il faut tout simplement voir un rappel de l'Évangile. Quand on voit ces deux versets, il faut voir un rappel de l'Évangile. Pourquoi? On va commencer quand il est marqué que Jésus, le ce Fils, au verset 3, est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression de son être. C'est pour montrer que Jésus n'est pas qu'un simple homme, il est véritablement Dieu. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, Jean dit que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique qui vient du Père. Donc nous avons vu Dieu marcher sur terre, tout simplement. Et il dit que il est l'expression de son être, l'empreinte de son être. Quand on voit une empreinte, on voit la marque de quelque chose. Mais avec Jésus, c'est comme si on voyait la marque de Dieu. C'est vraiment comme si on voyait Dieu, et c'est vraiment Dieu qu'on voit. Comme lorsque Thomas voit Jésus à la résurrection, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu », parce qu'il a contemplé Dieu en face de lui. Jésus, rayonnement de la gloire, expression de l'être, c'est-à-dire qu'il est véritablement divin. Et ce Dieu qui est aussi celui qui est créateur, regardez encore le verset 2, c'est par lui, par le Fils, que Dieu a fait les mondes. Ou les siècles, ou les âges, ça dépend des traductions, mais c'est-à-dire que il est le Créateur avec le Père. Au commencement était la Parole, et Dieu a tout fait par la Parole. Donc l'auteur veut montrer que ce Sauveur magnifique est Créateur, il est divin, et mieux encore, il est celui qui soutient toute chose par la Parole, au verset 3. Et c'est ce Dieu Tout-Puissant qui est venu sur la terre pour faire quoi? Toujours verset 3, pour accomplir la purification des péchés. Jésus est venu dans le corps d'un homme. Il a vécu la vie parfaite que vous comme moi, nous ne vivrons jamais. Il a obéi à la loi de Dieu et il a été livré pour les péchés. Il a accompli la purification des péchés. Et là, nous pensons tout de suite, quand on est dans ce contexte, on se dit, ah, la purification des péchés, ça me fait penser au grand prêtre qui rentre dans le temple avec l'animal et qui sacrifie, il fait le sacrifice pour le péché. Et là, les chrétiens doivent se dire, oui, c'est vrai tout ça, mais est-ce que vraiment ça accomplit quelque chose? Et ça, l'auteur aux Hébreux, il viendra un peu plus tard dans son livre. Mais rien qu'ici, il a fait la purification des péchés. Ça doit montrer à l'auditoire que oui, ce que Jésus a fait est bien plus grand que ce qui se passe actuellement dans le temple. Parce que le prêtre vient une fois par an. Et il revient chaque année, chaque année. Est-ce que vraiment les péchés sont pardonnés? Avec Jésus, les péchés ont vraiment été effacés, pardonnés. Il a accompli la purification des péchés. Jésus est venu comme un grand prêtre et il est venu pour s'offrir totalement en sacrifice pour nos fautes. Mais comme Jésus est fidèle et comme Jésus est saint et pur, Dieu l'a ramené d'entre les morts. Et Jésus est monté au ciel. Verset 3, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus est revenu à la vie, Jésus est monté au ciel pour aller s'asseoir. Et quand on s'assoit, c'est comme ce roi qui reçoit le couronnement, qui s'assoit sur son trône et on lui donne la couronne. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Il est venu, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Position d'autorité, position que c'est terminé le travail. Il n'y a plus besoin de retourner au temple, il n'y a plus besoin de refaire des sacrifices. Tout est accompli. Et ayant tout accompli, nous revenons au verset 2. Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a obéi à la mission que le Père lui avait confiée. Dieu l'a couronné et lui a donné comme héritage les nations, lui a donné comme héritage tout ce dont il avait sous la main. Il lui a tout donné. Ça rappelle le psaume 2, le psaume 2 qui dit que pourquoi les nations s'agitent-elles? Et Dieu dit, demande-moi les nations et je te les donnerai. Et c'est Dieu qui parle à son Fils. Donc vous voyez, nous avons vraiment le résumé de l'évangile avec ces deux versets où nous voyons vraiment ce que Jésus, sa personne, et Jésus, son œuvre. Et tout ça nous montre que sa révélation, du coup, ce qu'il a dit, revêt un caractère unique à cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il a fait. Et ça, ce n'est pas un prophète de l'Ancien Testament qui peut parler ainsi, ce n'est pas non plus un prophète contemporain, ce n'est pas un grand prêtre contemporain, c'est seulement quelqu'un qui est divin, en l'occurrence notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleure révélation que cette révélation. Elle est supérieure à cause de sa nouveauté et à cause de qui est Jésus. Et enfin, troisièmement, cette révélation, elle est définitive. Je vais relire encore le verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. En ces jours qui sont les derniers. Je le rappelle que les derniers jours, c'est vraiment les jours où Jésus arrive. C'est les jours messianiques. Et donc si les jours messianiques sont accomplis en Jésus, qu'y a-t-il encore à attendre derrière? Il n'y a plus rien à attendre derrière. Et si nous avons vu tout ce que Jésus a fait, qu'avons-nous encore à besoin d'attendre après le Christ? C'est ce que l'auteur est en train de dire à son auditoire, est en train de dire, vous avez vu qui est Jésus, vous avez vu ce qu'il a accompli, vous avez vu comment sa, la nouveauté il apporte, quelle nouveauté il apporte. Pensez-vous qu'il y a encore besoin d'attendre quoi que ce soit? Nous avons tout en Christ. Jésus, c'est comme ce tableau parfait où il n'y a plus besoin d'ajouter un coup de pinceau, où il n'y a plus besoin de faire une autre explication. Tout est déjà là. Nous avons tout simplement besoin que d'admirer. Et ce que nous trouvons après les évangiles, paroles des apôtres, l'enseignement de l'Église, est venu, en fait, c'était le message du Christ qui était encore caché, qui devait se révéler pour l'Église, pour les apôtres, et qui est consigné maintenant dans la Bible que nous tenons dans nos mains actuellement. Donc nous n'avons plus besoin d'une nouvelle révélation, d'un nouvel ajout, nous n'en avons plus besoin. Dieu a parlé par le Fils, et cela nous suffit. C'est un peu comme si vous aviez un roi qui dit à son fils qui est prince, voilà, désormais c'est toi qui parles, et voilà ce que tu vas dire à mon peuple, voilà, désormais vous allez prendre l'eau du puits entre 6h et 9h du matin, et c'est comme ça. Et donc le prince parle, et il dit que voilà, c'est l'ordre, maintenant vous prenez l'ordre, l'eau du puits entre 6h et 9h du matin. Et là il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, oui, mais je pense quand même qu'à 10h, c'est mieux de prendre l'eau du puits parce que il y a ceci, cela. Et le prince va dire, mais qui a l'autorité? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? C'est bien moi qui ai l'autorité. Et c'est moi qui ai la dernière parole. Donc il n'y a plus besoin de contester ou de changer. Si je parle, ma parole est définitive. Donc c'est moi qui ai le dernier mot. Même si peut-être tu as raison, peut-être, je ne sais, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que ma parole suffit. Et n'ont pas besoin d'en savoir davantage. Il n'y a rien à ajouter. Donc, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Nous n'attendons plus rien. Comme Paul le rappelle aussi à Timothée, à son enfant Timothée, toute l'Écriture, donc non seulement l'Ancien Testament, les paroles de Jésus, mais également ce qu'il disait à Timothée, tout cela est inspiré de Dieu et cela est utile pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous corriger, afin que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Que nous soyons conduits pour toute bonne œuvre. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que les saintes écritures, les 66 livres que nous avons aujourd'hui. Toute la révélation se trouve là-dedans. Toute la révélation se trouve dans le message de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire en fait un passage d'un père de l'Église qui confirme un peu cela. Il s'appelle Ignace d'Antioche et La situation est telle qu'en fait, il y avait des personnes qui disaient, oui, nous avons des révélations, nous pensons que, voilà, les anges nous parlent encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il y avait vraiment la confusion dans une église. Et donc Ignace écrit ceci. Ignace, c'est, on va dire, troisième génération, quatrième génération après les apôtres. Donc on est encore deuxième siècle. C'est très tôt. Et voici ce que dit Ignace pour vraiment contre ces personnes qui disent qu'il y a des révélations spéciales, il y a encore autre chose après le message du Christ. Ignace écrit, il dit ceci. Il écrit à une église. Il dit, je vous exhorte donc, non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ, à n'user que de la nourriture chrétienne, c'est-à-dire les Écritures, et à vous abstenir de toute plante étrangère qui est l'hérésie. Tous ceux-là qui amènent ces choses-là, ce sont des gens qui entremêlent Jésus à leurs propres erreurs, en cherchant à se faire passer pour des gens dignes de foi, un peu comme ceux qui donnent un poison mortel avec du vin mêlé de miel. Et celui qui ne sait pas le prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste, il absorbe la mort. Donc il est en train de dire à cette communauté, n'usez que de la nourriture chrétienne, que des saintes écritures. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Et vous abstenir de toute plante étrangère, toute révélation soi-disant spéciale. Vous avez tout dans les écrits des apôtres. Et il continue, il dit donc, soyez donc sourds quand on vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ. Race de David, fils de Marie, qui est véritablement né, qui a mangé, qui a bu, qui a été véritablement persécuté sous Ponce Pilate, qui a été véritablement crucifié, il est mort et au regard du ciel et de la terre et des enfers, qui est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est son Père qui l'a ressuscité et c'est lui aussi le Père qui, à sa ressemblance, nous ressuscitera en Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. Comment Ignace a eu connaissance de ces choses-là? C'est grâce aux saintes Écritures. Et il dit que non, nous n'avons pas besoin d'autre chose que de la révélation écrite que nous avons en Jésus-Christ. Ainsi, avec ce passage d'Hébreux, l'auteur veut montrer à son auditoire que voilà, le temple est là, d'accord, mais ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Avec Jésus-Christ, tout est terminé. Vous avez la révélation supérieure. Vous avez quelque chose de nouveau avec le Christ. Vous avez quelque chose d'unique à cause de qui est Jésus. Et vous avez quelque chose de définitif. Vous n'avez plus besoin d'attendre autre chose. La parole du Christ suffit. Voilà pourquoi nous avons mis notre foi en Jésus. Voilà pourquoi nous ne regardons pas à gauche ou à droite. Voilà pourquoi nous n'attendons pas une autre révélation. Parce qu'en Christ, nous avons tout trouvé. Jésus a accompli l'Ancien Testament. Jésus est une personne spéciale. C'est Dieu qui s'est incarné. Et c'est lui qui nous a pleinement révélé le Père. Et nous n'avons plus besoin d'attendre quoi que ce soit de la part de quelqu'un d'autre. Avec Christ, tout est accompli. Que Dieu donc nous aide à vraiment être comme émerveillés devant ce livre aux Hébreux, cette épître, et vraiment cette introduction qui vraiment nous met déjà dans le thème, et qui quelque part, si je puis permettre l'expression, met l'eau à la bouche pour nous dire que vraiment, nous avons un si grand Sauveur. Et sa parole nous suffit tellement. Pourquoi avons-nous besoin d'attendre une autre révélation, un autre message? Son message nous suffit pleinement pour que nous marchions en nouveauté de vie, pleinement avec lui, dans sa présence. Donc que Dieu nous aide vraiment à nous émerveiller, à nous souvenir de ce beau message, de se rappeler que Dieu nous a parlé par le Fils et que cela nous suffit. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse.